La chronique de Marc Boilard, présentée par le Groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
15h09, Marc Boilard, bonjour!
Mais bonjour à tous!
Comment vas-tu?
Très, très bien, vous-même.
En cette journée historique spéciale, d'ailleurs, tu veux t'inspirer de ça un peu, c'est l'inauguration, donc c'est l'assermentation pour Joe Biden. Et tu veux revenir un peu sur les années Trump avec des leçons qu'on doit tirer, selon toi, des
années. Ben, c'est ça. C'est très personnel, puis c'est un peu sous forme de jeu, à la rigueur, Sébastien. C'est tout ce que je vais t'avancer. J'ai 10 points, hein? C'est-à-dire qu'on s'assoit, là. Oui, oui, il y a du
jeu. On s'assoit,
oui. Il y a 10 points que j'ai pensés. Deux que je vous ai déjà parlé au fil des semaines, qui étaient mes sujets, si tu veux. Et puis, 8 qui sont, je l'espère, originaux. Et puis, à la fin de chaque point, ça va être très court, je vous invite à me dire si vous êtes d'accord ou pas.
OK.
Parce que un adage, moi, que j'aime beaucoup, c'est le suivant. Quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Ça fait que...
C'est bon.
Ouais. Ça fait que, donc, tu sais, on joue, mais c'est mes observations, puis j'y crois, ce que je vous prête. Mais en même temps, ben voilà, vous me dites, je suis d'accord ou pas. 25-2-2-6, on pourra voir à la fin s'il y a plus de « je suis d'accord ou pas », je suis très curieux. Bref, on y va. Numéro 1, parce que ce que je vais... C'est pas très politique, ce que je vais faire. C'est plus des leçons, je pense, qu'on peut tous tirer de ce que... des années qu'on vient de voir.
Des leçons de vie.
Qu'on soit pour ou contre, absolument. Okay. Numéro 1, on a vu... c'est quoi une personne toxique? C'est-à-dire que s'il y en a qui doutaient, c'était quoi la définition de quelqu'un de toxique? C'est-à-dire quelqu'un qui, dans son couple, son organisation, au travail, la famille, en politique, peu importe, ma définition, c'est qu'il prend toute l'énergie autour à son avantage et ça finit par être inévitablement au détriment des gens. On vient de voir c'est quoi la toxicité de quelqu'un. D'accord ou pas d'accord?
Moi, je suis d'accord.
Moi, je suis d'accord aussi.
Avec, oui,
avec la définition que tu as donnée, dans le sens où quelqu'un de toxique, c'est, il tire l'énergie de tout le monde vers lui. Là. C'est le centre de l'attention. Puis, comme tu l'as dit, ça peut être des gens travail, maison ou ailleurs. Tout tourne autour de lui. Puis, c'est pesant. Trump, ça a été pesant pendant 4 ans.
Mais je sais pas si on a eu besoin de Trump pour le savoir, par exemple. Moi, mon bémol, il serait là.
OK, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas ils ont pas de gens très toxiques dans leur entourage, puis ils pensent que ça se peut pas. Puis là t'entends parler tout à coup d'histoires d'horreur, de couple ou d'autres, puis tu fais comme OK, il y a des gens de même. Ben moi je pense qu'on en a eu un dans vitrine là, ben comme ça. Numéro 2, la fameuse théorie du beau-frère que je vous ai peut-être déjà expliqué, mais si vous étiez pas à l'écoute là, pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui disent que les États-Unis étaient bien divisés avant Trump. À vrai dire, moi je vais répondre de 1, c'est vrai. De 2, c'est le propre de la démocratie. Bon. C'est-à-dire que si t'es dans un pays libre, bien entendu que les gens pensent pas pareil. Ce qu'on a vu, c'est ce que j'appelle la théorie du beau-frère. C'est-à-dire que t'as dans les familles, des fois, le beau-frère, la belle-sœur, etc., avec qui on s'entend moyen. Sauf qu'il y a un peu de diplomatie, on les voit 3-4 fois par année, puis même si on s'entend pas, il y a des sujets qu'on évite, etc., la chicane pogne pas. Puis toi, tout à coup, le beau-frère, extrêmement zéro, qui, lui, avec un verre dans le nez, se pogne avec ton père, et là, la chicane pogne, ta sœur essaie de défendre le beau-frère, blablabla. Là, on vient de voir à quel point quelqu'un peut arriver, effectivement, dans une organisation divisée, mais où les gens se parlent, puis font quand même un peu attention pour que le système roule. Là, on a vu c'est quoi un beau-frère cave qui vient puis qui fait comme, moi, je m'en fous, moi, c'est ça que j'ai à dire. D'accord?
Ben,
pas d'accord.
Moi, je suis d'accord, puis on l'a vu, je pense que ça a été illustré aujourd'hui. Aujourd'hui, George W. Bush était présent pour la sermentation de Joe Biden. Il était aux côtés de, honnêtement, c'est le seul encore en vie, là. Fait qu'il était à côté de Clinton, de Obama, de Biden. Il était entouré de démocrates.
Seul républicain.
Mais Bush s'est quand même présenté. Alors que tu parles de division, Bush, là, il pense pas comme Obama puis Biden puis c'est.
Non.
Non, ils ont pas les mêmes idées politiques, les mêmes solutions. Mais il s'est quand même présenté parce que Bush, c'est pas un beau frère cave. C'est quelqu'un qui est dans la famille, qui pense pas pareil, puis que, bon. Alors que Trump, je donne encore raison à Mac, moi, je trouve qu'il s'est un peu comporté.
Moi, je trouve, par contre, que les divisions étaient moins pires avant l'arrivée de Trump. Je pense que les divisions ont été exacerbées de part et d'autre.
Par le beau-frère, c'est exactement ce que je dis.
Il a exacerbé les divisions.
Voilà.
Oui,
Elisabeth?
Oui, oui, je suis d'accord.
OK.
Mm-hmm. Numéro 3, ce que les gens disent, contrairement à ce qu'on pense, là, ce que les gens disent pèse beaucoup plus que ce que les gens font. À vrai dire, les pro-Trump, les MAGA, les calottes rouges, là, ils n'en ont rien à cirer des réalisations politiques de Donald Trump. Ils sont juste contents qu'ils s'opposent aux démocrates pour qui c'est le diable incarné. Alors, c'est là qu'on se rend compte de la pouvoir de la communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable de dire des choses, tu peux interpeller des gens de façon extrêmement forte, alors que tes réalisations, ironiquement, vont être moins importantes, parce qu'à la rigueur, c'est même pas ça qui nous interpelle.
Hey boy, là, je vais dire pas d'accord, parce qu'il reste en moi un soupçon de... Je pense encore que Trump a fait de bonnes choses. C'est sûr que si tu te fies aux médias sociaux, t'as raison, Marc, parce que t'as l'impression que les gens ont passé leur temps, les défenseurs de Trump, à défendre ses déclarations plus que ses programmes. Mais je pense pas que c'est représentatif de la société. Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont perdu leur job dû à la mondialisation, dû aux normes environnementales, qui ont été un peu mis de côté par les élites de la côte Est ou de la côte Ouest. Fait que peut-être que ceux-là, Marc, ils s'expriment pas beaucoup, mais ils aimaient peut-être les réalisations de Trump sans se faire voir beaucoup.
Est-ce qu'il a réellement réalisé des choses dans ce que tu viens de dire ou il l'a surtout dit et est-ce qu'il l'a réellement réalisé?
Ouais, là, sur son mandat, c'est partagé. Je te suis, mais il a quand même permis la réouverture de certaines industries. D'ailleurs, on le voit parce que là, tout de suite, Biden va fermer des choses. Il va s'opposer à l'oléoduc. Il va ramener l'accord de Paris. Je dis pas que ça, c'est mauvais. Je comprends la Terre, la planète, mais il y a du monde qui vont souffrir de ça puis qui vont perdre le job.
Nécessairement. Par contre, moi, je rejoins Marc. Parce que la preuve que les idées sont plus importantes que les actions, c'est l'appui que Donald Trump est allé chercher à l'international, notamment au Québec. Parce que au Québec, là, si t'es québécois et t'es pro-Trump, je veux dire, t'en as rien à foutre vraiment des actions de Donald Trump. Ce qui peut t'intéresser pour être pro-Trump, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il tweet, puis ce qu'il pense, puis ce qu'il représente. Alors, c'est pour ça que j'abonde dans le même sens que toi.
Là-dessus, moi, je parlais des Américains. Je pense que pour certains Américains, Trump a pu faire des gestes positifs. Là, si tu me parles du Québec, par contre, Jean-Simon, je l'ai déjà dit, son nom, je comprends pas. J'ai jamais vu un président avoir autant de partisans au Québec. Il change rien dans votre vie. Le conseiller municipal de votre district a plus de pouvoir que Donald Trump.
Absolument. Mais c'est ce qu'il dit. Voilà.
Vous connaissez même pas, pour certains, pas tous, vous savez même pas le nom de votre conseiller. Votre marguillier a quasiment plus d'impact. Mais là, Trump était devenu...
le bedeau!
Le bedeau! Les cloches! Sauf qu'à un moment donné, il y en a qui sont mis à capoter pro-Trump. Je suis d'accord, c'est pas en raison de ses réalisations. C'est même pas dans notre cause. C'est parce que vous aimiez ce qu'il représentait. Mais si je me fie aux États-Unis, je suis pas d'accord avec Marc.
Mais je vais donner un exemple. Moi, j'abonde peut-être dans le même sens que Marc, mais je vais donner un exemple très concret. C'est sur le prix de l'insuline, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour Trump parce qu'il avait promis qu'il allait baisser le prix de l'insuline pour ceux qui souffrent de diabète. Il a déclaré, Trump, il y a quelques mois, moins de 6 mois, qu'il avait donc bien réussi ce côté-là de son mandat. Il a dit, l'insuline, aujourd'hui, ça vaut aussi cher que l'eau. Ça, c'est complètement faux. Puis il y a des familles qui sont montées aux barricades après puis qui ont dit, j'ai voté pour toi à cause de ça. Aujourd'hui, l'insuline, ça peut coûter jusqu'à 1000 piastres par mois pour mon enfant. C'est pas vrai qu'il a baissé le prix. Fait que c'est vrai que les idées avaient été très, très fortes du côté de Trump. Les actions, peut-être un petit peu moins dans le concret.
Numéro 4.
Les médias sociaux sont un pouvoir en soi maintenant. C'est-à-dire que via les gens qui l'habitent, qui en font des messages, qui les utilisent, qui publient, mais sont rendus un contre-pouvoir comme les journalistes, la plateforme elle-même. Donc, en un mot, c'est qu'au début, les médias sociaux, c'était juste une plateforme.
Ouais.
Donc, les gens avaient un pouvoir, puis tu pouvais te rassembler, tu pouvais, bon, blablabla, ça, c'est encore le cas. Ce qu'on a vu quand ils ont tiré à plug sur Donald Trump, c'est que là, la plateforme elle-même est rendue un contre-pouvoir du même niveau que les médias et les journalistes.
Je suis d'accord avec toi. Ça, oui, c'est une leçon qu'il faut tirer. Voilà 20 ans. Alexis Cossette-Trudel aurait ressemblé au personnage dans Tintin et l'étoile mystérieuse qui est habillé tout de blanc avec un gong.
Le show avec une barbe.
Et qui prédit le show avec une barbe, puis qui cogne, puis la fin du monde s'en vient. Il y en a toujours eu du monde de même dans la rue là, pour crier n'importe quoi. Les médias sociaux en font des personnages maintenant, malheureusement, qui ont une grosse audience. Puis je veux pas, bâillonner les médias sociaux. Je parle juste des excès, là. Trompez-vous pas.
La naissance de QAnon en est la preuve. Claire.
QAnon n'aurait jamais pu se répandre autrefois, mais là, aujourd'hui, c'est devenu un pouvoir. Ouais, je suis d'accord avec ça.
Numéro 5, quelqu'un qui est au pouvoir de n'importe quoi, OK? Donc, pouvoir, ça veut dire, comme nous autres, qui a un micro pour parler à plein de monde, un politicien, un chef d'entreprise, etc., permet à ses partisans de laisser aller leur côté sombre et caché. Donc, oui, être public, ça vient avec une influence et une responsabilité. Dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient racistes secrètement dans la base de Trump, et non pas par l'électeur moyen, mais sa base qu'on a vue, entre autres, là, aller, je vous répète que toute la gang de l'invasion du Capitole mercredi passé, jamais il y avait un seul sigle qu'on a vu nulle part du Parti républicain. Donc, ils s'en claquent totalement du parti. Ils n'en ont que pour le gourou. Donc, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, c'est qu'à partir du moment où la personne est très forte, puis qu'elle a vraiment le crachoir, elle peut, si c'est dans son message, valider des choses qu'on se dit, ouais, ça a de l'air que ça paraît mal, je vive en société, il faut faire attention à ça, puis laisser aller tout ça comme étant légitime parce que le boss en haut, lui, il crie dans le même sens que moi.
Oui, en partie, on a souvent employé l'expression que Trump a décomplexé certains racistes ou misogynes. Il y a des affaires que peut-être que les gens pensent, mais qui sont peut-être pas fiers de le penser, ou il y a peut-être des affaires là. Quand c'est rendu que même le président des États-Unis traite les femmes comme ça, ou peut dire que les Mexicains sont des violeurs et des assassins,
ça te légitimise. Ça rejoint un peu le point du pouvoir des médias sociaux. Parce qu'il a gouverné essentiellement sur Twitter, Donald Trump. Là. Ça démontre à quel point, quand t'es une figure haut placée, tu peux influencer des gens qui sont peut-être à la rigueur vulnérables, puis vont finir par croire ce que tu dis. Et donc, t'as une influence, t'as une responsabilité sur les gestes qu'ils posent par la suite.
Et moi, j'irais même plus loin, c'est encore dans la même, je veux pas rajouter des points, là, on reste dans le même, Marc, mais une des leçons qu'il faut peut-être tirer, c'est que quand tu ouvres la porte à ces gens-là, dès l'instant où tu permets à Donald Trump de demeurer un personnage légitime, crédible, tu sais, il reste que... Je te dis pas qu'il fallait le tasser totalement par la police ou l'armée, mais tu sais, il est quand même resté dans le débat malgré des propos, surtout en début de campagne, là, j'en ai parlé la semaine dernière, vraiment, vraiment misogyne. Une fois que tu le permets, c'est comme un mensonge. Une fois que tu as admis un mensonge, ben ils vont continuer à mentir.
Ben oui.
La porte est ouverte, là. Je donnais comme exemple que, imaginez François Legault en point de presse à 13h, répondre à une journaliste, une femme, qui le challenge un peu. On a le droit, là, de challenger. Trompez-vous pas, là. Mettons la femme. Bonjour, je suis une journaliste de telle. Monsieur Legault, ça manque de transparence, votre administration. Puis Legault, il répond, toi, je regarde tes yeux, puis d'après moi, t'es menstrué. T'as les yeux pleins de sang.
Mais c'est fini.
Le go est out. Et avec raison. Mais là, je prends pas cet exemple-là au hasard. Sachez que Trump a dit ça. Là. Juste une fois. Là. Il l'a écrit. Il l'a écrit sur un tweet. C'était même pas lancé. Il a tweeté sur Morgan Kelly de Fox News. Puis il l'a fait à d'autres aussi. Là. Alors une fois qu'on ouvre la porte, c'est comme, ah, Trump, c'est Trump, puis il a dit ça, puis c'est correct. Ceux qui le défendent, là, c'est comme, ah, ben non, il y a rien, là, c'est le personnel, regarde, c'est ça.
Mais c'est ça le problème, c'est que c'est quoi la solution à ça? Une fois qu'on a dit que ça n'a pas de bon sens, puis effectivement, oui, tu as une influence et tu dois assumer les responsabilités qui viennent avec. Trump a été élu par un processus démocratique, là. Il y a des gens qui ont voté pour lui.
C'est mon sixième point.
OK, allons-y.
C'est mon sixième point, c'est exactement ça. C'est qu'on a vu, non, mais c'est pas, c'est pertinent ton affaire, Liz. On a vu, selon moi, vraiment les limites de la démocratie pour laquelle, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de solution sauf aller plus voter. Parce que tu sais que partout dans le monde occidental, la participation au vote est en constant déclin presque tout le temps. Là, vois-tu, parce qu'il y a des gens qui ont senti une espèce d'urgence, ça a été hop, une curve vers en haut aux États-Unis. Mais c'est la seule solution que je vois parce que toute la gang, encore une fois, toute la planète des singes qui est arrivée au Capitole la semaine passée, eux autres, là, c'est un vote, un homme, hein? C'est un vote un homme. Ils sont pas plus influents que toi, que moi, que quelqu'un qui vote pour Trump, mais pour des raisons parce qu'il s'oppose aux démocrates. Un vote sensé. C'est la même gang. Qu'on a vu la limite de la démocratie.
Le grand boubou, là, qu'on a vu, là, ou Cornelius, si on veut employer ton image à toi, là, appelons-le comme on veut. Mais il vote, lui. Et il vote autant que le dernier prix Nobel américain.
Absolument.
Il y a le même poids, le grand boubou, que le dernier prix Nobel de physique américain.
C'est la plus grande faillite de la démocratie. Le fait que tout le monde soit égal,
Les gens aient voté.
C'est ça, parce qu'avant, ce qui arrive, c'est que, rappelez-vous, vous avez bien ri cette semaine, quand je vous ai dit, il y a une nouvelle mouvance, une troisième avenue, qui est je vote pour, je vote contre, puis moi, j'y crois pas. On fait comme maintenant, ça, c'était pas aussi présent. Ça fait qu'ils sont bruyants plus que réels, je suis bien d'accord, mais il y a une seule façon pour répondre à Elisabeth que moi je vois pour me noyer ça à quelque part, c'est d'aller voter plus que jamais, d'après moi.
C'est vrai.
Maintenant, François Mitterrand disait, c'est une autre affaire je trouve qu'on a vue à sa quintessence, il faisait une phrase que je trouve qui est quasiment plus un gag ou une caricature. Mais
on est rendu à 7, là, c'est ça?
Oui, okay,
oui. Je suis, vas-y.
François Mitterrand disait, un président de la France, disait, la droite n'a pas d'idée, elle n'a que des intérêts. C'est que, évidemment, on comprend que c'était un président de gauche, alors lui, c'était sa façon de traiter la droite, etc. Mais dans le mandat de Trump, on a vu ça, mais de façon spectaculaire. La différence entre... C'est jamais clair avec Trump si ce qu'il dit, c'est quelque chose qui avantage lui, sa base, ses amis, ou si c'est quelque chose qui croit réellement que le pays a besoin. On est donc à l'opposé des gens de droite que moi, j'ai connus au Canada, Mulroney ou Harper, qui était oui, totalement de droite, mais qui avait une vision collective de la droite, pas une mm-hmm. vision dans mes poches de la droite.
Tellement d'accord avec toi là-dessus, je te donne 200% parce que moi, en tant que conservateur de droite, moi, Trump, pour moi, c'est pour tous ceux qui sont à droite, c'est un recul incroyable parce qu'il donne raison aux Mitterrands de ce monde qui disent voilà. Je suis pas d'accord avec la phrase de Mitterrand là. Moi je pense que la droite aussi peut avoir des idées, peut avoir des principes, mais avec Trump, c'est justement cette droite là qui est juste notre gang, on pense juste à nous autres, juste aux États-Unis, juste à notre gang, les autres, tous ceux qui sont ah, j'haïs ça puis Trump a vraiment fait mal paraître la droite. Ça. On va rester dans les grands débats français. Tu sais qu'un politicien de droite a déjà répondu justement à Mitterrand, la gauche n'a pas le monopole du cœur. Tu te souviens de cette phrase-là? Je me souviens pas qui avait dit ça, mais c'était quelqu'un de droite. Donc, oui. Si t'es à droite, tu penses que tu peux être de droite puis avoir du cœur puis penser aux autres, même aux plus démunis. Tu penses juste que moins d'impôts, moins de gouvernement, ça peut être collectivement bon pour tout le monde. Car Marc disait, Harper, Mulroney, c'est des gens qui ont travaillé pour le Canada.
Complètement.
Alors que Trump, c'était vraiment, vraiment sa gang. Puis tout le reste, c'est des gars, j'ai pas besoin, vous savez à quel point il a insulté. C'est vraiment lui puis son monde à lui. Il a fait reculer la droite de 40 ans. D'ailleurs, je sais pas quand...
Quand elle va revenir, ben moi c'est parce que ce que je ressens, là, c'est la fameuse alt-right là, qui a pris la place de la droite, l'espèce de droite alternative.
Mais c'est pas la vraie confusion. Droite,
ça. Je suis d'accord avec toi, on est loin de l'axe standard gauche-droite en politique. Là. Mais il ne rendait qu'une espèce de confusion identitaire slash économique slash, c'est tout mélangé, ça fait une
c'est
espèce
de... C'est la rançon
de
la personne toxique.
Ouais.
Ben, elle divise.
Voilà. Alors que la droite, avant, souhaitait, tout comme la gauche, c'est pour ça que quelqu'un a déjà dit, vous n'avez pas le monopole du cœur. La droite est supposée vouloir le bonheur collectif de tout le monde.
Absolument.
Mais par des chemins différents que la gauche.
Et voilà.
Notamment
et voilà.
Sur la présence du gouvernement, les libertés individuelles, etc., tout ça. Les impôts. Bon.
Go, débattons.
Oui, après ça, go. Ouais, ouais. Mais là, avec Trump, on est allé dans d'autres affaires. Dans du racisme, dans de la misogynie, dans des affaires que ça n'a pas rapport. Mais malheureusement, la droite va être entachée de
c'est
ça.
Clair.
Pendant longtemps, je pense.
Ah, ben, là, là-dessus, ça dépend qui. Si dans 4 ans, les Républicains se trouvent quelqu'un de plus rassembleur, de plus...
Je sais pas. On va miser, en fait, sur le prochain candidat, parce que tant que lui sera pas là, on va malheureusement garder des séquelles de l'ère de Trump. Là.
Moi, je le souhaite.
Numéro 8! Et là, ça va être très rapide. Je vous pose juste une question. Moi, c'est l'observation que je fais. Il n'y a pas et a jamais eu d'équivalent féminin à Donald Trump.
Vrai.
Oh, très d'accord. C'est vrai, ça.
Un peu faux, je pense. Là. Je te dis pas que je suis. Je veux juste parce que vous savez que j'aime l'histoire. Là. Fait que je tends à dire oui comme vous autres, mais. Tu sais, Margaret Thatcher a quand même été dure, mais non.
Regarde,
c'était pas Trump. Non, je non. Sais, mais je pense à elle parce que c'est une politicienne de droite. Elle t'a peu, elle a déjà ramassé les mineurs en grève, etc.
Ah oui, elle était raide.
Ouais, elle était raide.
Même la reine avait de la misère avec, là. Vous l'avez vu dans The Crown. Il n'y avait pas une belle relation.
Ouais, mais on peut pas dire comme Trump. Mais on peut pas dire que Thatcher a été comme Trump.
Pas.
Le reste.
Dans les dirigeants, même si tu remontes là, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, t'as rien qui se. Dans le féminin, là, qui me vient en tête.
Non, mais t'as peu, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup, malheureusement, je le précise
ça,
beaucoup.
Ça,
t'as pas tort.
Parce que si tu regardes les reines, il y a eu des reines cruelles, là, mais vraiment. Là.
Oui, mais c'était pas mal l'époque. Là, je veux
c'est
dire,
sûr.
Il
n'y
a pas de.
Il
faut le mettre dans l'air.
Pas capable de prendre une reine. Peut-être que tu vas être capable de m'en nommer une demain, peut-être que ça m'échappe, là, à part des folles comme Elisabeth.
Il
n'y
a pas eu
là.
Beaucoup de Gengis Khan non plus, mais à cette époque-là, couper
non,
des têtes,
c'est
c'est
ça, c'est assez standard, c'est ça. Fait que non, je suis pas capable de revenir en disant « Ah oui, cette femme-là était... »
Non, mais ça vient pas d'une conclusion, hein? C'est vraiment juste
une bonne question.
Avouons-le.
C'est une bonne question.
À date, mais il faut que je dise oui. Mais parce que c'est comme si on admettait que... Puis là-dessus, moi, je pense que... D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que les femmes... Une femme pourrait être une excellente présidente des États-Unis. Parce que là, les femmes ont... pas Hillary, parce que je l'aimais pas à cause de ses idées, mais pas parce que c'était une femme, là. Hillary, tu sais, c'était démocrate, la gauche, mais une femme pourrait être une excellente présidente des États-Unis, j'y crois. Mais si on croit à l'égalité homme-femme, au niveau des compétences et des qualités, faut aussi y croire au niveau des défauts.
Ben
est-ce
oui.
qu'il pourrait absolument. Y avoir une femme qui soit pas bonne ou méchante comme Trump?
Absolument, c'est juste que ça se manifesterait peut-être différemment. Je pense que dans un bassin, si on avait, mettons, on pouvait faire un laboratoire. Mettons qu'on avait un laboratoire avec 200 pays, puis qu'on était au-dessus, puis qu'on voyait ça, puis qu'on mettait 100 dirigeantes féminines versus 100 dirigeants masculins qui sont pigés au hasard, au prorata des personnalités, puis de l'âge, puis tout ça. Je suis sûr à 100%, et ça, je pense que c'est juste comme ça, que les pays dirigés par des femmes auraient moins de violence que les pays dirigés par les hommes. Ça, j'en suis persuadé.
Ça, c'est intéressant de
savoir.
Ça, c'est
évidemment. Mais pourquoi? Ça, c'est parce que je pense que la violence est de façon inhérente plus masculine que féminine. Je pense que c'est ça. Puis je pense que dans l'histoire, ça se prouve également. Je veux dire, on le voit assez. Même si tu fouilles dans l'histoire, généralement, les dirigeants masculins les plus cruels ont été des hommes plutôt que des femmes.
Ouais, mais à l'époque, il n'y avait que des hommes au pouvoir, j'en suis
sûr. Non, mais les reines avaient pas mal plus de pouvoir qu'on pense. Quand on pense à l'Antiquité, quand on pense au Moyen-Âge, des reines au pouvoir, des pharaons, des. Il y en a eu, là, des Hatshepsut, tout ça, je pourrais t'en nommer, là, qui ont fait des règnes, là, tout à fait éclairés, tout ça. Puis, honnêtement, les noms de grands règnes barbares, de sang, de génocide.
Il y a eu une couple de reines chez les Médicis qui n'étaient pas très, très pacifiques.
Ah, je te dis pas que, que c'était toutes des anges, mais tu sais, il y en a qui disent Catherine II de Russie, c'est sûr qu'elle était cruelle avec ses opposants, tout ça. Mais
non, en Espagne aussi, Isabelle, etc. Je trouve la question super bonne, mais
c'est, on va dans les époques sans nom, mais aujourd'hui, mettons, là, on prend. Je suis persuadé qu'on prendrait 100 femmes. Mais ça, c'est ma théorie à moi, le gars. Ça vaut ce que
mais
ça.
Mais il faut se transposer dans l'ère moderne. Là, attention, là. Tu peux pas prendre un dirigeant d'il y a 200 ans.
Non, c'est ça.
Faut que tu prennes le contexte actuel. Dans le contexte actuel, le problème, c'est que les méchancetés qui venaient souvent de la bouche de Trump, c'était des méchancetés à saveur de misogynie et de complexe de supériorité masculine. Le pendant féminin de ça, il existe pas tant que ça. Les femmes peuvent être méchantes, là. Je suis d'accord. Mais l'espèce de complexe de supériorité masculine qu'on essaie d'éteindre au fil des années, il était très présent chez Trump. Je suis pas sûr que tu pourrais trouver l'équivalent.
C'est un bon point. Je suis pas mal... on discute, là. Je veux pas... parce que depuis tantôt, j'essaie de chercher. Vous avez raison, mais d'un autre côté. Puis là, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais des Donald Trump, même chez les dirigeants masculins, il y en a pas beaucoup non plus. Tu sais, vous dites qu'il y a pas d'équivalent féminin à Trump. Regardez Emmanuel Macron, qu'on peut détester parce qu'on n'aime pas ses idées, mais regardez Boris Johnson, qui est très polarisant aussi. Regardez, il y en a plein, là. Des Donald Trump, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas une tonne.
Ah, il y a peut-être lui au Brésil, Bolsonaro, le gars aux Philippines, qui sont aussi des hommes. Je vais vous le donner, qui sont également bizarres, hein?
Victor Orban en Hongrie.
Ouais.
Jamais aussi foncé, je suis bien d'accord.
Mais t'as raison qu'on peut pas déterminer parce qu'on n'a pas d'équité totale, tout ça. Mais
parce que si t'as raison, Jean-Simon. Ouais. Admettons que je te donne raison. Ouais. Elisabeth n'est pas allée aussi loin que toi, mais toi, tu dis une femme dirigeante, automatiquement, il y a moins de violence.
Ça
veut dire qu'on devrait exclure les hommes de la direction. Ben oui, parce qu'on serait mieux que des femmes.
Je pense que plus on va se rapprocher de l'équité en termes de femmes dirigeantes dans le monde, et plus il va en avoir. Plus le monde va être pacifique. Je crois à ça. Mais je pense pas qu'il faut éliminer tous les hommes. Je pense pas à ça. Mais je pense que ça va faire du bien d'avoir de plus en plus de femmes en politique parce que les femmes ne voient pas les choses de la même façon que les hommes.
Je comprends.
On est guerriers, on est compétitifs, il y a quelque chose chez les hommes. Je sais pas que les femmes sont pas compétitives, qui se manifestent différemment. Maintenant, comment, tout ça? Là, le reste, je pourrais écrire un roman, c'est théorie.
Puis pour conclure, juste pour vous exposer à quel point on n'est pas rendu là, en début de semaine, il y avait un papier écrit sur Valérie Plante, la mairesse de Montréal, pour dire à quel point c'était une dirigeante qui était dure parfois. Un papier comme ça n'aurait jamais été écrit contre un dirigeant masculin qui fait le même travail que Valérie Plante. Si Valérie Plante est une femme qui dirige durement, je sais pas quelle femme va pouvoir diriger sans se faire critiquer. Tu comprends?
C'est un excellent point.
Madame Sourire,
je suis d'accord avec toi à 100%. Non, moi, je trouve le débat
intéressant. C'est
intéressant
comme question.
Puis là, évidemment, j'essaie de me baser sur l'histoire, mais vous avez raison. Compte tenu qu'on n'a pas assis de tout temps, les femmes avaient eu accès au pouvoir autant que les hommes, on pourrait peut-être tirer certaines conclusions, mais là, ils ont été parfois dans l'ombre, parfois elles ont accédé à la monarchie, mais c'est quand même rare. Fait qu'on peut pas se baser, il faut se baser sur l'histoire récente. Et c'est sûr que à la question, est-ce qu'on peut trouver un équivalent féminin de Trump, si on regarde l'histoire récente, la réponse c'est non. Il faut l'admettre, j'en vois pas. Si les auditeurs en voient sur 25226...
Là, il ramène Thatcher, mais Thatcher, on l'a...
Non, je vais vous dire que... Moi, je ne suis pas un expert en histoire britannique. Thatcher, d'abord, elle était dure avec les terroristes de l'IRA, mais t'as peu, là. Elle avait d'excellentes raisons.
Elle s'est
surtout fait connaître parce qu'il y a eu des grèves, les mineurs, puis tout ça, mais ça brassait, les syndicats étaient extrêmement puissants, puis les terroristes de l'IRA ont tué du monde, là. Je pense que... puis je reviens encore à l'affaire, peut-être, d'Elizabeth. On trouvait Thatcher dur, puis on y reprochait si ça avait été un homme. Est-ce qu'on l'aurait interprété de la même façon?
Allez, écoute, dans le passé récent, Valérie Plante, Geneviève Guilbeault, ce sont tous des exemples de femmes qui se sont fait dire qu'elles étaient dures.
T'as raison, Geneviève Guilbeault aussi.
Je me souviens pas du dernier reportage concernant un politicien masculin qui ont dit la même chose. Là.
On n'a pas le même jugement. Hein, tu sais, oubliez pas, là, je suis capable de le reconnaître. Là. Tu verrais un dirigeant de je sais pas quel pays avec une montre, je sais pas moi, qui vaut cher une Rolex, là, pis ça passerait. Puis Mme Marois, certains foulards qu'elle mettait, ça passait pas. Je sais pas si vous en souvenez.
Oh oui.
Ça passait pas.
Oui.
Est-ce qu'on a le même jugement? Et des fois, différent. Numéro 9, il en reste deux. On va y aller, on a le temps.
Oui. Ah ouais, go. Avant-dernier, oui. On a vu qu'un pays, ça se gère pas comme un dépanneur. C'est-à-dire que il y a une croyance qui circule, plus à droite qu'à gauche, comme quoi, pourquoi on gère pas ça comme au privé, puis pourquoi, puis au privé, puis au privé, puis au privé, puis au privé. C'est parce qu'il y a toutes sortes de catégories qui font en sorte qu'être un citoyen, c'est pas toujours être un consommateur. Aller à l'école, c'est pas un geste de consommation. Être malade, c'est pas un geste de consommation quand on veut aller dans le système de santé, etc. Ça fait que quand on prend un homme d'affaires qui a été habitué de façon très, très, tu sais, vindicative et avec soi-disant succès, puis qu'on le met dans une chaise où on se dit « là, tu vas nous gérer ça », puis qu'il garde les mêmes réflexes, ben on se rend compte que ça amène aussi son lot de chaos parce que tu gères pas un pays comme un dépanneur avec profit et perte.
Et on pourrait résumer ça en disant « tu gères pas un pays comme tu gères un empire immobilier ouais. ». C'est Trump s'est vanté toute sa vie. Si vous avez un peu lu son livre, c'est comme vanté d'avoir fourré du monde.
Essentiellement.
Ben oui, mais okay. La façon dont il raconte ses négociations, comment il achète un immeuble, ça s'appelle comment? Ça s'appelle fourrer quelqu'un. Ben oui. Il raconte tout, là. C'est pas beau, c'est pas une négociation où il y a deux gagnants. Non, non, il écrase l'autre carrément, il l'intimide, puis il l'écrase. Fait que ça, je serais d'accord avec ça. Ben oui, si on remplace en plus dépanneur par empire immobilier, c'est la même affaire.
Et dernier point, c'est un souhait.
Ah oui, donc.
Je veux faire un souhait aux Américains parce que c'est un pays, moi, je trouve, qui, à mes yeux, s'est dégradé la dernière année, notamment. Moi, j'étais un grand partisan des États-Unis. J'ai eu un condo 10 ans de temps en Floride. Ouais. Ah oui. Puis là, je suis vraiment content aujourd'hui, je vais vous le dire. Mais ça m'a laissé comme un goût amer de dire, c'est qui eux autres? C'est quoi ces chicanes-là bizarres? Puis tu sais, c'est comme, il y a quelque chose que j'aimais moins, sérieusement. Puis le souhait, c'est que je souhaite aux Américains, de toute allégeance, OK? Vraiment, à part crétin, là, mais de toute allégeance, de continuer à se battre pour ce qu'ils considèrent leur pays, parce que cette vision-là est pas unanime, puis c'est correct, mais dans des règles normales, c'est-à-dire basées sur le vrai. Commencez par voir le vrai, c'est quoi la réalité? Pas l'invention, pas des mensonges, pas des chiffres qu'on connaît. Juste dire, OK, on va voir le réel, puis à partir de là, là, ben je vais décider si je l'aime, si j'aimerais qu'il ait dans un sens vers en avant ou à côté, ou si je préférais avant, parce que je m'excuse, mais le progressiste, par définition, là, c'est pas une panacée. C'est pas toujours parce que ça avance, entre guillemets, que c'est mieux qu'hier. Pas du tout. Ça fait que moi, ce débat-là, je l'aime. Quelqu'un qui dit, moi, j'aimais mieux comme avant. Quelqu'un qui dit, non, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde ailleurs. Mais à la base, on peut-tu partir du réel? Là, après ça, on jase, on se pogne, puis tant qu'à moi, on est de retour avec c'est quoi l'Amérique?
Moi, j'ai un dernier petit souhait en terminant aussi, là. Moi, je trouve que c'est une belle journée aujourd'hui parce que, bon, l'ère Trump est passée. Je suis pas un démocrate, mais juste le fait que ça se soit terminé. Mais je souhaite une chose sur Joe Biden. Ne répétez pas les erreurs du passé. De Clinton, d'Obama. Cessez de snobber les gens qui ont pas vos diplômes, qui habitent pas New York ou la Silicon Valley, qui sont pas millionnaires, qui sont pas... Il y a plusieurs Amériques. Oui, Trump nous a montré un mauvais visage de l'Amérique, un certain mauvais visage, mais Trump s'est aussi adressé à une Amérique qui est pas méchante, mais qui est un peu déclassée, laissée pour compte, snobée un peu.
C'est très vrai.
Par certaines élites. J'espère que Biden va être capable de faire le pont et de pas juste être dans sa bulle et sa tour d'ivoire. Parce que ces gens-là, les partisans de Trump, il y en a peut-être là, qui sont heurtés un peu parce qu'on dit depuis tantôt, mais je répète, moi, depuis le début qu'il y a des gens, il y avait certaines bonnes raisons d'appuyer Trump, malgré tout le mal qu'on peut dire du personnage. Les motivations de certaines n'étaient pas
absolument
mauvaises.
Absolument. Je suis bien d'accord avec toi.
J'espère qu'on va être capable de répondre. Hein?
C'est qu'il y a une différence entre le porte-parole et l'entreprise.
Voilà. Oui.
C'est ça.
La cause de Trump, sa cause comme telle, était pas mauvaise. C'est
non,
juste que merci Marc, merci
beaucoup.
Ça a été le fun, 15h38 au FM 93. J'aime mieux parler que de décrire l'assaut sur le Capitole. Fait que si on a pu avoir autant de temps avec Marc pour faire ça, c'est parce que sachez qu'il se passe absolument rien à Washington. Rien, c'est quand même historique, mais tout est tout à fait normal et c'est tant mieux comme ça.
Voilà.
Il y a eu zéro incident depuis le début, 15h38.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.